Radio Kapi. Oh, Kapi.
Toutes les lignes de front dans le groupement de Djomba, en territoire des Routures au Nord Kivu, sont calmées ce mercredi. D'après la société civile locale, les rebelles du M23 se seraient retirés de la zone vers une direction inconnue. Flambée des prix des biens de première nécessité à Kinshasa, une augmentation vertigineuse alors que le taux du dollar n'a pas changé. À titre d'exemple, un sac de cossettes de manioc est passé de 70 à 120 000 francs congolais. Enfin, en Bujima, une antenne de protection contre les rayonnements ionisants a été installée. Mais qu'attend-on par rayon ionisant? Pour en savoir plus, nous recevons dans cette édition le professeur Florimond Nyamoga. Il est président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. Au Nord Kivu, une accalmie s'observe sur toutes les lignes de front dans les combats qui opposent les FARDC aux rebelles du M23 dans le groupement de Djomba en territoire de Rutshuru. Les sources de la société civile de Rutshuru affirment qu'après de violents combats d'hier mardi, près de la cité de Bunagana, les rebelles de M23, Gabriel Wamenya, se seraient retirés de la zone vers une direction jusque-là inconnue.
Un calme apparent s'observe depuis ce matin dans les zones de combat qui opposent les FARDC aux rebelles du M23. Chaque parti engagé dans les combats maintient sa position conquise depuis le début des hostilités. Les FARDC renforcent et consolident leur position à Rangira alors que la cité de Tchengerero, passée sous contrôle des rebelles depuis lundi dernier, reste fantôme. Les rebelles n'y sont plus visibles, affirment les sources dignes de foi dans les territoires de Rutshuru, mais ils maintiennent toujours leur position sur les deux collines stratégiques de Chanzu et Runyonyi. Hier mardi, après de violents affrontements dans les collines surplombant la cité de Bunagana, les FARDC ont réussi à stopper l'avancée des rebelles dans la cité qui est actuellement sous contrôle de l'armée. La société civile de Rutshuru affirme avoir vu des colonnes de militaires des FARDC venir en renfort en provenance de Goma et Beni. Les responsables de cette structure redoutent cependant ce qu'ils qualifient du désastre humanitaire dans la zone, car la plupart des personnes affectées par ces combats sont dépourvues de tout et vivent essentiellement de l'agriculture. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Entre-temps, dans les groupements de Djomba et plusieurs autres villages, localités environnantes en territoire de Rutshuru sont quasiment vidées de leurs habitants. Bernard Nyangi, les déplacés ont fui les uns vers le territoire ougandais, les autres dans des cités plus sécurisées en territoire de Rutshuru.
Le groupement de Djomba serait à présent vidé à 80% de ses habitants, estime un député provincial élu du territoire de Rutshuru. Emmanuel Ngarouye précise que les localités comme Gikoro, Mukingo, Bunagana et Rubona sont vidées totalement, alors que celles de Nyagasozi et Kibanda le sont partiellement. Les attaques depuis la nuit de dimanche à lundi des rebelles du M23 dans la zone ont aussi touché le groupement voisin de Busanza, dont la localité de Mungo s'est aussi partiellement vidée. Des sources administratives locales à Bunagana estiment à 5000 le nombre de ménages et de déplacés ayant fui vers Kisoro en Ouganda, alors que des milliers d'autres ont trouvé refuge vers Rutshuru Centre, Kiwanja, Kisigari et d'autres villages de Busanza. Ces déplacés ainsi que les familles qui les ont accueillis, vivant pour la plupart de l'agriculture, sont en situation de vulnérabilité, indiquent les organisations locales et de défense des droits humains. Conséquence, la coordination locale de la société civile redoute ce qu'elle qualifie de désastre humanitaire dans la zone et plaide pour l'intervention urgente du gouvernement congolais. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Et puis, sachez que les corps de 8 casques bleus de la MONUSCO qui étaient à bord d'un hélicoptère en mission de reconnaissance abattu hier dans la région de Tchanzu sont déjà à Goma à la morgue de l'hôpital de la MONUSCO. Il s'agit de 6 ressortissants pakistanais, un russe et un serbe. Sifa Maguru, le secrétaire général des Nations Unies à New York, a déjà adressé un message de condoléances à leur famille et a annoncé l'ouverture des enquêtes pour déterminer les circonstances de ces drames.
Il n'y a aucun survivant parmi les 8 casques bleus qui se trouvaient à bord de l'hélicoptère Puma qui a disparu et qui s'est écrasé hier dans la journée de mardi. Les corps ont été retrouvés lors d'une opération de recherche et de sauvetage lancée par la MONUSCO. Il s'agit de 6 membres d'équipage du Pakistan et de 2 militaires dont Un est originaire de la Russie et le second de la Serbie. Une inspection initiale de l'hélicoptère révèle qu'il a été touché par des munitions. Une enquête sur les circonstances de l'accident est en cours. Dans une déclaration, le secrétaire général des Nations Unies se dit profondément préoccupé par la résurgence des activités du M23 dans la zone trifrontalière entre le Rwanda, la RDC et l'Ouganda, ainsi que l'impact des violences des groupes armés sur les populations civiles. Antonio Guterres réitère l'engagement des Nations Unies à soutenir le gouvernement et les peuples congolais dans leurs efforts pour amener la paix et la stabilité dans les provinces orientales du pays. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ce temps, 5 militaires et 3 femmes civiles impliquées dans le trafic d'armes et munitions ont été présentées mardi au gouverneur de province à Bunia. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, ces personnes ont été dénoncées par une femme qui a été arrêtée samedi dernier avec plus de 700 munitions sur le tronçon Bambou Kilo en territoire de Djougou. La société civile de l'Ituri demande au gouvernement de poursuivre les enquêtes dans le but, Isaac Remoyope, de dénicher ce réseau au sein de l'armée en vue de mettre fin aux conflits armés qui perdurent dans cette province.
Parmi les militaires arrêtés, il y a un lieutenant-colonel, des majors et des soldats de rang. Du côté des civils, des femmes soupçonnées de faciliter les trafics d'armes avec le groupe armé Codeco sont également aux arrêts. Tous ont été cités par une femme arrêtée samedi dernier avec 700 munitions de PKM et des fusils AK-47 à la barrière des contrôles des phares de Séani, sur les tronçons Bunia-Mungwalu. Selon des sources militaires, 4 autres soldats impliqués dans ces dossiers sont en fuite. Ils sont recherchés par les services de sécurité du lieutenant Gilles Ngongo.
Qu'il y a un groupe des officiers ou des éléments des forces armées impliqués dans la vente de munitions qui sont tombés dans le filet du service de défense et de sécurité.
La société civile de l'Ituri salue cette action des FARDC pour décourager la mafia au sein de l'armée. Cependant, son coordonnateur demande au gouvernement d'approfondir les enquêtes pour dénicher tous les militaires qui sont impliqués dans les trafics d'armes et munitions dans le but de pérenniser la guerre en Ituri. Dieudonné Lossa.
La population a dit plusieurs fois qu'il y avait des militaires suspects. Et même le chef de l'État, quand il est passé ici, il a dit qu'il y avait des masques au sein de l'armée. Si on veut arrêter avec les massacres à l'Ituri, que ces militaires et tous les complices soient dénichés et qu'ils soient condamnés publiquement.
Signalons que ces militaires et civils sont mis à la disposition de la justice militaire. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous l'avons dit au sommaire, flambée des prix des biens de première nécessité à Kinshasa. Sur les cas de denrées alimentaires, un bidon d'huile de palme de 25 litres qui coûtait 45 000 francs congolais revient actuellement à 52 000 francs. Un sac de braise qui se vendait à 23 000 francs s'achète présentement à 32 000 francs. Voire même le sac de cossettes de manioc, lui est passé de 70 000 à 120 000 francs congolais. Une rame de chinchard de 20 plus est passée de 51 000 à 58 300 au marché Gambela. Les prix augmentent alors que, Priscilla Badjoko, le taux de dollar reste inchangé.
Certains vendeurs du marché de Gambela affirment que le gouvernement n'assure pas le contrôle sur la vente de produits par les grossistes.
En tout cas,
nous ne parvenons pas à nous en sortir, d'autant plus que le prix augmente au quotidien. Prenons l'exemple du bidon d'huile qui se vendait à 92 000 francs congolais. Il y a à peine une semaine, se vend aujourd'hui à 107 000 francs congolais. Il y a donc une augmentation de 15 000 francs congolais. Comment avoir les bénéfices? C'est difficile. On achetait avant 10 bidons, mais aujourd'hui, on ne peut qu'acheter 8 bidons à cause de cette augmentation des prix. Nous sommes en train de souffrir parce que l'État congolais ne contrôle pas les particuliers qui nous vendent les marchandises.
D'autres, par contre, disent que c'est la multitude des taxes qui est à la base de la surchauffe de prix observée ces jours-ci.
Les personnes qui font payer la patente passent, d'autres passent pour faire payer des tickets, la taxe de l'État aussi. Ça augmente chaque jour.
Face à cette hausse continuelle, les ménagères disent éprouver des difficultés pour la survie de leur famille.
Nous ne savons plus quoi faire. La radio diffuse des nouvelles nuit et jour, mais on ne trouve pas toujours de solution. Mais nous sommes en train de souffrir. Nous sommes vraiment en train de pleurer. Et il y a de quoi.
Tous appellent le gouvernement à trouver rapidement des solutions pour réduire cette tension que vit la population au quotidien.
Puis direction l'Assemblée nationale où s'examine ce mercredi la motion de défiance contre le ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Les députés nationaux signataires de cette motion se disent déterminés à déchoir le ministre à la suite de la montée vertigineuse des prix de services et produits sur le marché. Au cours de la même plénière de ce mercredi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur devraient venir répondre à une question orale avec débat du député Jackson Aoussé sur la déstabilisation des assemblées et des gouvernements provinciaux. Dans la province de Lomami, la route Chikuyi-Ngandajika, longue de 45 km, n'a pas été réhabilitée selon les normes ou les clauses de contrat. Le constat a été fait par un député national élu de la circonscription de Ngandajika qui est revenu de ses vacances parlementaires. Cet axe qui part du péage de la rivière Kalelu à Bakua Mulumba devrait être réhabilité par l'entreprise Johnny Matala Company GMC Congo qui avait gagné le marché auprès du gouvernement provincial de Lomami dans le but de rendre le trafic routier entre Ngandajika et Mbujimayi fluide. Le directeur technique de l'entreprise GMC Congo rejette ces allégations externes dans la finale.
D'après le gouvernement provincial de Lomami, la route Chikuyi-Ngandajika devrait être réhabilitée dans le but de permettre l'évacuation des denrées alimentaires vers Mbujimayi, le centre de consommation. Quelques semaines après la fin des travaux effectués par l'entreprise GMC Congo, les voix s'élèvent pour dénoncer le mauvais état de la route. Le député national Robert Kaniki, élu de la circonscription de Ngandajika qui revient de ses vacances parlementaires, estime que les travaux ont été bâclés.
Le directeur technique de la société déclare avoir reçu seulement $17,000 contre plus de 450,000 perçus.
Via Dunia, directeur technique de l'entreprise GMC Congo, rejette ces allégations.
Nous avons élagué toutes les pierres qu'il y avait dedans, jusqu'à Benadiadia, jusqu'à Sakwa Mulumba. La route a été bien aménagée et bien propre. Il n'y a pas d'embûche. L'office de route est venu derrière pour dire je vais rester 3 minutes d'arranger la route jusqu'à Ngandajika. GMC n'a rien à voir de tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé après.
Contacté, Benjamin Dima, directeur provincial de l'office des routes de Lomami, affirme que les travaux d'entretien de cette route se poursuivent grâce aux fonds leur alloués par le FONER. Esther Dalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, plusieurs accidentés qui étaient admis à l'hôpital de Simenkat à Louboudi dans le Lualaba ont été transférés à l'hôpital général de référence de Mwangeji à Kolwezi. D'autres sont encore restés sur place en attendant qu'ils soient ramenés ailleurs. Jean Gandou, plus de deux semaines après ce drame, quelle est la situation des blessés?
À ce jour, 11 blessés graves ont été transférés de l'hôpital général de référence de Louboudi à celui de Mwangeji à Kolwezi, où ils poursuivent leurs soins. D'après le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, les blessés qui sont restés à l'hôpital de la Simenkat à Louboudi sont au nombre de 3, auxquels il faut ajouter 15 de leurs membres de famille qui étaient avec eux à bord de ce train. En dehors de ceux qui avaient été ramenés à l'hôpital de Luena dans le territoire de Bukama, d'autres malades ont quitté l'hôpital et sont partis pour une destination inconnue. Toujours d'après la même source, la SNCC va transférer très prochainement les 3 malades auxquels s'ajouteront 5 autres qui sont pour le moment admis à l'hôpital général de référence de Luena dans le territoire de Bukama. Déjà, 5 enfants qui avaient perdu leurs parents dans ce drame ferroviaire ont été accueillis à l'orphelinat des religieuses à Fungurume. Les autres enfants, dont les parents ont péri au cours de ce drame, ont été récupérés par leurs membres de famille. Notons que le 10 mars dernier, un train marchandise de la SNTC avait déraillé à Kitenta, non loin de Louboudi centre. Le bilan officiel était de 73 morts et de plus de 120 blessés. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Congo central, la vente de liqueurs à forte dose d'alcool provenant de l'Angola accentue le taux de la délinquance juvénile à la cité de Lukala située dans le territoire de Mbanzangungu. Déclaration de la coordination provinciale de la nouvelle société civile du Congo central 2 qui indique que ces produits rendent les jeunes inconscients jusqu'à les inciter à poser des actes d'incivisme tant déplorés par la population de cette entité. Cette structure citoyenne qui fustige l'inaction des autorités compétentes en ce qui concerne l'entrée de ces produits en RDC estime qu'interdire l'accès de ces liqueurs au pays constitue l'une des réponses efficaces à l'éradication du phénomène Kulunana na plus richement beau.
Vendu à vil prix à partir de 200 francs dans la cité de Lukala, ces liqueurs à forte dose d'alcool provenant de l'Angola contribuent à la dépravation des mœurs puisqu'ils rendent saoulés inconscients à moindre coût, au point de blesser par la machette leurs semblables sans remords, affirme Levin Biavanga, coordonnateur de la nouvelle société civile de Lukala. Bon nombre de jeunes et adolescents ne sont pas encadrés. Ils passent les journées endormis dans les sites de vente de ces produits pour ne se réveiller que les soirs, a-t-il ajouté. Selon ces derniers, la circulation de ces produits en RDC n'est pas réglementée. La preuve éloquente est que les détaillants habitant Lukala, entité se trouvant à plus ou moins 30 à 40 minutes du poste frontalier de Lufu d'où sortent ces liqueurs, s'y rendent à temps et à contre-temps pour se ravitailler. Les conséquences de cette vente aisée, même auprès des enfants et adolescents, c'est l'accroissement du taux de banditisme, la paresse et l'inconscience dans les chefs de la jeunesse de ces coins du pays. Les coordonnateurs de la nouvelle société civile de Lukala invitent les autorités à prendre cette question au sérieux, en interdisant l'accès de ces liqueurs qui constituent une source des différents maux qui gangrènent la société. Matadi, Nana Pleriche Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au 35e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce mercredi 30 mars, un espoir de sortie de crise serait-il en voie d'arrivée? Après les rondes de pourparlers d'Istanbul, Moscou s'est engagé à réduire radicalement son activité militaire dans les régions de Kiev et Tcherniv, mais les bombardements continuent en Ukraine.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le professeur Florimond Nyamoga. Il est président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants. En effet, en Mbujimayi, une antenne de protection contre les rayonnements ionisants a été installée. Mais qu'entend-on par rayonnement ionisant? Il s'entretient ici donc avec Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour, professeur Florimond Nyamoga. Vous êtes le président du Comité national de protection contre les rayonnements ionisants. Vous êtes en mission en Mbujimayi pour installer le comité provincial. Avant tout, nous voulons savoir, c'est quoi les rayonnements ionisants? C'est quoi?
Les rayonnements ionisants, ce sont les rayonnements qui ont des effets négatifs sur la santé et l'environnement de l'homme. Même dans la nature, il y a des rayonnements ionisants. Mais il y a des seuils qu'il ne faut pas dépasser de ces rayonnements pour que l'homme et l'environnement soient en bonne santé. Et c'est pourquoi nous sommes là pour protéger l'homme et son environnement pour que ces rayonnements ionisants ne puissent pas dépasser les seuils requis par la science. Les rayonnements ionisants peuvent être émis par n'importe quoi, même les sols, même la nature, même l'atmosphère. Mais maintenant, il y a des entreprises qui utilisent des sources radioactives. Et ces sources radioactives projettent des rayonnements ionisants, mais à un seuil très bien élevé. Alors nous sommes là pour essayer d'encadrer ça, de protéger, enfin de ne pas nuire à la santé de la population.
Et y a-t-il des personnes exposées aux rayonnements ionisants dans la ville de Mbujimayi et dans notre province?
Nous croyons qu'il doit y avoir des rayonnements ionisants quelque part, parce qu'il y a des entreprises minières ici dans les Kasaï-Orient. Et nous savons très bien que les entreprises minières utilisent des sources à rayonnements ionisants, qui sont des sources radioactives, qui sont protégées et qui sont régulées par nous, Saint-Péry. Donc nous devons tout faire pour aller voir comment ça fonctionne, si ces travailleurs-là sont protégés et si ces sources-là sont bien encadrées pour qu'ils ne puissent pas nuire à la santé de la population. Non seulement ça, les entreprises minières, mais les hôpitaux qui utilisent des radios, par exemple, qui projettent des rayons, les XR, que nous appelons les rayons X. Tout ça, ce sont des sources à rayonnement ionisant qui peuvent nuire à la santé de la population. Et nous sommes là pour réguler tout ça, encadrer, pour voir s'ils remplissent les normes où ils mettent les rayons X pour que ça ne puisse pas atteindre la population pour nuire à leur santé.
Quels sont les effets négatifs ou positifs des rayonnements ionisants?
Il y a beaucoup d'effets négatifs. Nous avons vu des enfants qui naissent par malformation. Les gens peuvent avoir des problèmes de santé physique jusqu'à mourir même, à être contaminés et jusqu'à mourir, à perdre leur vie à cause des effets nocifs. Voilà pourquoi il est important de les encadrer et de réguler, en fait, que nous puissions protéger la population.
Et qu'est-ce qui peut être à la base de ces rayonnements ionisants?
Toute chose produit des rayonnements ionisants, mais à faible dose. Je vous ai amené l'appareil qui quantifie la quantité de rayonnements ionisants. Il y en a même dans l'atmosphère, mais à faible dose. Par exemple, si nous mettons cet appareil-là, il va vous donner les micros sévères, 0.1, tout ça. C'est qu'il y a quand même les rayonnements ionisants. Ça, c'est produit par tous les soleils, la lune, les plantes, tout ça, mais à faible dose. Et maintenant, c'est quand ça commence à projeter plus de doses que ça devient dangereux pour l'homme.
Et comment nous pouvons lutter contre les rayonnements ionisants?
Justement, nous sommes là pour lutter contre ça. C'est-à-dire que nous devons protéger d'abord l'homme, là où il travaille. S'il y a des projections des rayonnements ionisants qui dépassent les seuils normaux, nous devons encadrer et voir, par exemple, les sources radioactives qui en produisent. Nous pouvons les enfermer quelque part, les protéger, puisqu'il y a quand même des couvertures très bien appropriées en aluminium, en métal, à toutes ces choses-là. Les fermer, par exemple, dans des boîtes bien déterminées, bien précises, selon les normes de la internationale ou, en fait, s'éloigner davantage de ces rayonnements. Nous pouvons aussi encadrer les travailleurs et surtout les boss qui utilisent les agents pour qu'ils ne puissent pas les exposer longuement à ces rayonnements ionisants.
L'antenne provinciale que vous venez d'installer a-t-elle des matériels pour faire ce travail?
J'ai amené les plus grands matériels dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est les détecteurs des rayonnements ionisants. Donc ça va détecter partout où nous nous trouvons les nombres exacts de la projection des rayonnements ionisants. Donc le matériel est là et il y a surtout des formations que nous allons faire pour leur apprendre à comment détecter toutes ces choses.
Okay. Professeur Florimond Nyamoga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à Élisée Chikota et Alain Irung qui m'ont aidé à vous présenter cette édition. Merci aussi à Dieudonné Nyangasa qui était à la manette. Merci de nous avoir suivis.